C'est une histoire que vous avez probablement entendue, mais j'ai aimé à me la rappeler, alors je vous la rappelle aussi. Un vieil Indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants, et il leur dit « Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se joue en ce moment une grande bataille. Deux loups se battent. Un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre est bon. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. La même bataille se joue en ce moment en vous, en chacun de nous en fait. Silencieux, les enfants réfléchissaient, puis l'un d'eux dit « Grand-pa, lequel des loups va gagner ?» Et le vieux Cherokee répondit « Simplement, celui que tu nourris. » Et ce combat, nous le connaissons tous dans nos cœurs. Alors, ça fait vraiment l'idée qu'il y a un ange, un petit ange, là, les deux petits anges de Tintin autour du capitaine Haddock. Mais parfois, c'est un peu ça, le combat qui se mène dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs. Même l'apôtre Paul menait ce combat lui-même, et il l'exprime de cette façon en Romains 7, 15. « Je ne sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et un peu plus loin, au verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » En d'autres termes, pourquoi mes décisions ne se transforment-elles pas en actions ? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? C'est toute la différence entre ce que je voudrais être, et je parle du potentiel que nous connaissons, que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c'est un profond désir. Et comment j'apparais en réalité. Et tous ces combats qui sont quotidiens, pluricotidiens, entre notre volonté et sa mise en œuvre, entre ces petits challenges de tous les jours, nous les connaissons tous. Je vais me lever tôt pour prier tous les matins, mais je n'y arrive pas. Je dois renoncer à ces pensées, mais je me laisse encore emporter par elles. Ou encore, je dois faire ce régime pour ma santé, mais je continue à prendre des kilos. Je voudrais m'arrêter de boire, mais je retombe à chaque fois dans l'alcool. Je veux que mon regard soit pur, mais je le livre encore à ces images malsaines. Qu'y a-t-il vraiment au fond de mon cœur, de ton cœur? C'est un des fondamentaux. C'est un des fondamentaux de quand on reçoit le Seigneur. C'est de réaliser que tout au fond de mon cœur, il y a Dieu. Je l'ai accepté dans ma vie. Il a fait sa maison de mon cœur. Et quand je regarde le fond de mon cœur, ben c'est sa volonté que j'y trouve. Et si vous regardez dans le fond de mon cœur et que vous n'y trouvez pas sa volonté au fond, c'est-à-dire ce désir de le suivre, ben priez. Peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie complètement à Jésus. Mais si vous y trouvez la volonté de Dieu, c'est un des fondamentaux. Ce désir-là, je l'ai dans mon cœur. Je veux être mieux, Seigneur, pour toi. Je veux que mes désirs, que tes désirs soient mes désirs. Je ne veux plus moi, mais je te veux toi. Et je regarde les désirs les plus profonds de mon cœur, les plus profonds, et ils sont purs. Comme quand vous regardez les désirs les plus profonds de vos cœurs, ils sont purs, car c'est mon Seigneur, c'est notre Seigneur qui a fait son temple. Et ça, c'est important. Même si les parvis du temple de ma vie sont pleins de marchands, voleurs, menteurs, rempli de convoitise, Dieu continue à habiter le saint des saints de mon cœur. Et cela m'encourage. Alors comment mettre cette volonté en pratique? Comment renoncer à la tentation? Comment renoncer à la haine? Comment renoncer à la jalousie? Comment manifester plus de l'amour que j'ai reçu par un acte de service ici et là, ou une parole encourageante, là encore, prendre du temps à écouter quelqu'un? Comment détourner les yeux de mon nombril? Comment sortir de ma cupidité? Ce ne sont pas de... Notre vie, elle n'est pas faite de grandes choses, mais elle est faite de petites choses qui s'accumulent. Mais il y a pourtant des grands combats qu'il ne faut pas perdre. Parce que ce sont des moments où nous nous trouvons à la croisée des chemins, où nos actions auront des conséquences à long terme et parfois des conséquences irrémédiables sur notre vie et sur la vie des autres. Peut-être que vous avez déjà été à la croisée d'un de ces chemins-là. Un chemin où j'y vais ou j'y vais pas. Et c'est un de ces moments-là que vit Jésus à Gethsémané. Après le repas de la Pâque, il se rend avec ses disciples au jardin pour prier, car il sait qu'il doit prendre une grande décision. Porter la croix et accepter le sacrifice ou pas. Et l'action qui résultera de sa décision aura des conséquences non seulement sur sa vie à lui, mais sur celle de ses disciples, sur toute l'humanité. Des conséquences cosmiques pour tous les âges, même avant la création du monde et quand cette terre disparaîtra. Matthieu 26, on va lire le texte en Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, sur la passion de Jésus dans le jardin. Mais ce que je souhaiterais partager avec vous ce matin, c'est un aspect de ce texte. Comment Jésus a affronté la tentation, l'adversité, cette bataille sur sa volonté. Ce que j'entends par là, c'est comment, quand nous savons ce que nous devrions faire ou ne pas faire, nous pouvons le mettre en action, obéir. On voit dans notre texte Jésus qui est le visage contre terre. Je ne sais pas si vous avez déjà prié comme ça, allongé par terre, le visage contre terre. Prier à genoux. C'est une disposition du corps. Vous savez, on n'est pas séparé de notre corps. Parfois, on peut prier en tout temps dans sa voiture. Mais parfois, c'est bon que le corps suive la pensée. comme c'est bon parfois d'exprimer par des gestes notre louange. Dans la prière, c'est pareil. Et Jésus, c'est pas quelque chose qui prie pas d'une manière seulement mentale, mais il prie avec tout son corps. Il est allongé par terre. Un visage rempli de tristesse et d'effroi. Et l'évangile de Luc nous dit qu'il suit comme des grumeaux de sang. Il est à l'agonie presque. Personne ne voudrait faire face à la crucifixion, à la douleur que cela représente, mais pour Jésus, la souffrance est tout autre. Elle est d'un tout autre ordre. Elle est spirituelle, et vous savez ça. Jésus l'appelle cette coupe. Cette coupe, c'est la colère de Dieu contre le péché des hommes. C'est la colère de Dieu contre les meurtres. Depuis Caïn, qui tua son frère Abel, en passant par tous les autres meurtres qui ont suivi, par les guerres, par les exécutions, les génocides, ceux des camps de la mort au Rwanda et ceux qui sont perpétrés par Daesh en ce moment, et tous ceux à venir. Mais aussi, c'est ces enfances violées et tuées, et puis il y a encore toute cette masse qui va avec de mensonges, de vols, de faux témoignages, de pensées perverses, et toute l'indifférence à la souffrance des autres, des pensées que nous pouvons avoir, ou le manque d'amour que nous pouvons avoir, l'égoïsme. Mais il y a aussi cette coupe. Dans cette coupe, tous ces péchés que moi-même j'ai commis, que toi aussi, auxquels toi aussi tu as participé. Et c'est cela, la coupe que va boire Jésus-Christ. La souffrance auquel Jésus doit faire face n'est pas seulement due au fait qu'il sera abandonné par son peuple, par ses amis, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Simon, et même trahi par l'un d'entre eux, mais qu'il va subir la colère. Et c'est une colère légitime de Dieu. C'est toute cette colère qu'on peut ressentir devant l'injustice. Mais croyez-moi, Dieu la ressent bien plus fortement que nous. Et cette colère va s'abattre sur Jésus-Christ. Probablement, ce qui est sous-estimé parfois dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est qu'il a eu le choix. Il a eu le choix. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et ce choix qu'a dû faire Jésus, c'est tout l'objet de sa passion dans le jardin. Et il semble que Jésus, dans ce texte, aurait pu dire « Non, Seigneur. Non, Dieu. » Parce que Jésus est entièrement homme dans le jardin, même s'il est entièrement Dieu aussi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le consentement de Jésus-Christ est nécessaire. Et pour notre vie, le consentement, il est nécessaire. On ne donne pas notre vie à Jésus par force ou par contrainte. On le donne parce que c'est nécessaire. C'est pas que Dieu pourrait pas faire quelque chose sans nous, mais il veut le faire avec nous. C'est nécessaire. Jésus a donné sa vie volontairement pour toi, pour moi, afin que nous ne mourions pas, mais que nous ayons part à la vie éternelle avec Dieu. Et c'est tout ce que nous avons chanté ce matin. Et de même, Dieu a besoin de notre consentement pour prendre la première place dans nos vies, dans notre volonté, et il ne veut pas que nous obéissions par devoir, mais que nous obéissions par amour. Amour pour lui, pour nous-mêmes, pour notre prochain. Mais voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est Paul qui rappelle ça aussi. Jésus fait face à la même faiblesse que nous. Car bien que le Fils de Dieu, bien qu'il ait été Fils de Dieu, il est aussi pleinement homme. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, soumis aux mêmes contraintes du corps, aux mêmes tentations, à la même faiblesse charnelle. Et entendez par charnel dans le sens corps et esprit. Comme Jésus a pu ramener tout son corps à suivre la volonté de Dieu, à faire que son amour soit plus fort que la peur de la souffrance à venir, c'est ce que nous invite à faire notre Seigneur. En marchant, vous voyez, c'est le jardin de Gethsémané tel qu'il est aujourd'hui. Alors, paraît-il que certains de ces arbres auraient vu Jésus, de ces oliviers, qui auraient plus de 2000 ans. Et alors, on a pris une petite feuille chacun pour ramener à la maison qui était là par terre. Mais en marchant aujourd'hui à Jérusalem, et quand on part des murs de Jérusalem, on monte sur le mont des Oliviers, on arrive au jardin de Gethsémané, il y a là un texte de Matthieu qui est écrit vers les versets 40 et 41 que nous avons lus. Et en dessous, il y a un texte qui est écrit et qui dit ceci: « Le « Oui, Père » que Jésus prononça en une totale adhésion de sa volonté lui fit traverser la plus profonde nuit de la tentation et de souffrance et le mena à la victoire. » Ainsi donc, les nuits que nous traversons mèneront elles aussi à la victoire, dans la mesure où nous disons « oui » en nous abandonnant à la volonté de Dieu. S'abandonner. S'abandonner à la volonté de Dieu. C'est tout le propos d'Alexandre Jolien, dont je vous ai déjà parlé, dans son petit traité de l'abandon. Et j'y ai repensé parce que j'ai mes voisins qui vivent de grosses difficultés, et un voisin qui est dans une profonde dépression, en arrêt depuis 2 mois. Enfin, et je les voyais, je revenais je courais, et puis je revenais de ma course à pied, et je les voyais, lui sortait depuis quelques jours, il n'était pas sorti de chez lui, et ils étaient tous les deux à couper la haie du jardin, mais avec des sécateurs, il y avait une haie avec des fleurs, et elle lui montrait ce qu'il fallait couper, alors que c'est lui le jardinier d'habitude dans la maison. Et elle lui montrait ce qu'il fallait couper, et lui était là en train de couper, et je les ai regardés, et le sentiment que j'ai eu, c'est « mais quel amour !» Voilà, quel amour elle a pour son mari. Et quel abandon, lui aussi, il a en se laissant faire, en disant « ben voilà, chérie, j'arrive plus, aide-moi. » Et quelquefois, c'est ça, l'abandon. Alexandre Jolien, c'est un homme gravement handicapé depuis sa naissance, et comme Mathias, il a une infirmité motrice cérébrale, mais sans atteinte intellectuelle. Il est resté de 3 ans à 17 ans en institut, et aujourd'hui il est écrivain et philosophe, père de 3 enfants. Et il exprime que la première chose qu'il faut abandonner, c'est le désir de devenir quelqu'un d'autre. Que peut faire un renard pour ne pas être un renard? Que puis-je faire pour être quelqu'un d'autre que celui que je suis actuellement? Ben rien, rien. Mais du matin au soir, personnellement, j'essaie parfois d'être quelqu'un d'autre, de paraître quelqu'un d'autre. Et ce qui accroît la souffrance et crée le manque, c'est la comparaison. Ben je ne suis pas celui-là. Je voudrais être celui-là, je voudrais être comme ça, je voudrais être... Non, cette comparaison, elle ne vaut pas. Dieu nous appelle tel que nous sommes. Jésus existant en forme de Dieu, nous dit Paul en Philippiens, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est ça, les combats que nous menons. Le combat dans la tentation, c'est l'abandon. Seigneur, je t'abandonne tout. Toutes les pensées qui viennent dans vos têtes, il faut les laisser passer, il ne faut pas les accrocher. Hein, une pensée de haine sur quelqu'un. Faut pas, oh, je la regarde, oh, elle n'est pas bonne. Non, regarde, parce que, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, laissez-la passer. Abandonnez tout au Seigneur. Ah, j'ai un sentiment de haine. Je te l'abandonne, Seigneur. Ça t'appartient. C'est comme ça que Jésus a fait. Se dépouiller des mauvais désirs. Et comment le fait-il? Ben, il s'entoure de compagnons de prière. Et on voit souvent... Pardon. Ça, je vais le mettre après. Bon. On voit souvent Jésus prier seul. Mais là, il demande à ses disciples de prier avec lui. Et pas n'importe lesquels. Il choisit Pierre, qui lui avait dit qu'il le suivrait jusqu'à la mort, et Jacques et Jean, encore appelés fils du tonnerre, qui avaient demandé à Jésus d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche quand il s'assiera sur son trône de gloire. Et Jésus leur a demandé s'ils seraient capables de boire la coupe, cette coupe dont nous venons de parler, la coupe de colère. Et il ne choisit pas tout le monde, mais quelques disciples qui avaient manifesté leur foi d'une manière particulière à Jésus, d'une manière honnête. Et ils avaient dit, oui, ben, nous, on pourra boire la coupe. Et Jésus leur dit, peut-être, mais pas maintenant. Mais vous la boirez, cette coupe aussi. Vous la boirez. Et Jésus est très honnête avec eux. Il leur dit pas, bah, je suis un peu. Il dit, mon âme, elle est triste jusqu'à la mort. J'en peux plus. C'est le maître. C'est le rabbin, le rabbi, celui qui les enseigne. Et là, il vient vers eux et dit, mon âme, elle est triste jusqu'à la mort. Je suis par terre. Je n'en peux plus. Ma tristesse et mon angoisse me submergent tellement que je me sens mourir. Restez avec moi pour me soutenir dans l'épreuve. J'ai besoin de vous dans cette épreuve que je traverse. J'ai besoin de votre prière. Jésus va se montrer vulnérable. Il ne cache pas sa peine quand, en retournant vers ses disciples, il les trouve assoupis. Vous n'avez pas été capable de veiller une heure avec moi? Même ses plus proches disciples l'ont abandonné. Luc nous dit qu'ils se sont assoupis de tristesse, tant leur désarroi devant la souffrance était grande. Ce qui est important de relever, c'est que nous aussi, nous avons besoin d'accompagnement. On a besoin des compagnons dans notre vie de tous les jours. Des gens avec qui nous pouvons être entièrement honnêtes. Dire voilà l'objet de mes pensées en ce moment. Voilà avec quoi je lutte en ce moment. Voilà comment je me sens en ce moment. Vous partagez vos doutes, vos chutes, vos luttes. Des amis avec lesquels on peut partager nos joies aussi. Et nos peines. Des amis qui sont témoins de nos vies et de ce que l'on traverse, de nos vies intérieures, capables de nous encourager, de nous reprendre, de prier pour nous et avec nous. Et Jacques nous y encourage. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité. Efficace, ça se dit aussi, c'est pas une erreur comme je pensais quand j'étais plus petit. Et il rajoute, pour parler de cette prière puissante, cette prière de communion, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On ne partage pas simplement un moment de vie, mais on partage un moment spirituel, cosmique. Qui appelleras-tu quand tu es dans le désarroi, quand encore une fois tu t'es laissé avoir par le péché auquel tu avais pourtant renoncé 10 fois? Qui vas-tu appeler quand tu as une décision difficile à prendre dans ta vie et que cette décision va déterminer probablement tout ton avenir? Et il semble que Dieu veuille utiliser l'autre pour être un soutien pour nous. Car c'est au travers de la communion d'amour entre les hommes, des hommes et des femmes, que Dieu construit son royaume. La victoire est dans la communion des âmes. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin, frères et sœurs, pour être en communion fraternelle. Mais ça ne suffit pas, cette communion-là. Il faut que nous la poursuivions. Puis Jésus va, dans ce combat contre la volonté, on a besoin des autres. Au verset 41, Jésus dit à ses disciples endormis, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et l'apôtre Paul combat avec cette idée. Oui, j'ai cette pensée qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui est en moi, mais voilà, j'ai du mal dans mon corps. Il est possible de se désirer de tout son cœur faire une bonne chose, mais d'être incapable de le faire. Et Pierre est un bon exemple de cela. Il est plein d'enthousiasme. Et il dit « J'irai jusqu'à la mort avec toi », mais il s'endort au premier obstacle. Pourtant, il aime son Seigneur, Pierre. Et c'est un marin pêcheur. Et vous savez, les pêcheurs, ils pêchent la nuit. C'est pas que Pierre, il a du mal à veiller. Non, il n'a pas de mal à veiller. Normalement, il travaille la nuit, Pierre. Mais pour ce jour-là, il est submergé de tristesse, nous dit Luc, et il s'endort. Il n'a pas tenu une heure. L'enthousiasme ne suffit pas à accomplir les bonnes choses devant l'épreuve. Ton corps est si faible, dit le Seigneur, qu'il est incapable de suivre les aspirations de ton cœur. Et pourtant, cette frêle nature humaine dans laquelle nous sommes est capable d'être entraînée. Et c'est l'exemple que nous montre Jésus à Gethsémané. Parce qu'il ne va pas prier une fois, il ne va pas prier deux fois, mais il va prier trois fois. Et si ces trois, c'est un sens de perfection, de « il va prier », c'est comme si toute sa vie était une prière pour cela, pour aller jusqu'au bout, jusque là où le Seigneur l'a appelé. Et il combat avec Dieu, non pas contre, mais avec Dieu. Et l'adversaire, c'est lui-même à ce moment-là, sa propre volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Jésus, il n'a pas envie de mourir sur cette croix. Par trois fois, il revient à la charge. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jacques nous dit, résistez au diable. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et il faut faire la différence entre la personnalité et le caractère de quelqu'un. Le caractère, c'est la personne que je deviens au travers des épreuves. Je développe mon caractère en remportant la victoire. Je ne pourrais pas changer ma personnalité. Et d'ailleurs, il ne faut pas que je la change. Le Seigneur, il veut m'utiliser avec ma personnalité. C'est comme ça qu'il m'a créé. Et il a besoin de moi comme ça. Mais je peux faire que mon caractère se transforme. Je développe mon caractère en remportant des victoires sur les mauvaises habitudes qui se sont instaurées dans ma vie. Et Paul en parle en Romains 7 et il dit... Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est par la grâce, c'est cette grâce qui nous rend capables, capables d'être délivrés de ce corps de mort. Et nos petites vertus personnelles puent, et j'emploie une expression de Max Donner, nos petites vertus personnelles puent devant la grâce rendue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il poursuit en Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Persévérance, vous savez, c'est quand on n'en peut plus. La persévérance, on a besoin de persévérance, c'est quand on arrive au bout. Et là, on dit persévère. Et ce n'est pas dans le sens de persévération. Persévération, c'est faire des gestes involontaires. Non, la persévérance, elle est volontaire. Elle est volontaire. Elle a un objet. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, l'Esprit Saint. Le développement du caractère se fait à travers la vie de l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint. Et il est 100% initié par l'Esprit et 100% achevé par la grâce de Dieu dans nos vies. Développer son caractère, c'est développer le caractère de Dieu en nous. pour que les désirs de Dieu deviennent nos désirs. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit Paul. Cela ne veut pas dire que nous n'y participons pas, et parce qu'il est nécessaire de mettre notre volonté à la disposition de Dieu, comme Jésus l'a fait. C'est Paul qui dit à Timothée en lui disant qu'il traite durement son corps, comme les athlètes qui s'entraînent pour une compétition dans le stade. Mais c'est pareil. C'est pareil avec ses pensées. Alors j'avais cherché un passage sur les pensées, et puis j'avais pensé « je tiens captif toute pensée ». Mais ce n'était pas dans cet objet-là. Parce qu'en fait, tenir captif nos pensées, on n'y arrive pas. Elles sont là. On n'arrive pas à les tenir captives. Non, il faut les laisser, il faut les abandonner, ces pensées-là. Quand il parle de tenir captifs les pensées, c'est les pensées qui vont contre le Christ et dans l'enseignement dans l'Église. C'est ces pensées-là qui tient captives l'apôtre Paul par son enseignement. Mais il faut laisser partir les mauvaises pensées, les laisser fuir et remplir son esprit de bonnes choses. Il s'agit de rompre les habitudes pour s'abandonner à Dieu et le laisser faire, non pas le laisser faire pour le laisser faire dans nos vies, mais le laisser faire ce pourquoi nous avons été créés, ce qu'il veut faire de nous. Si je veux avoir la force de résister à la tentation, de faire face à l'adversité quand je suis déjà triste, de faire ce que je sais être la bonne chose à faire quand je n'ai plus la force, c'est par l'entraînement de la prière. C'est par l'entraînement de la méditation de la parole du Seigneur. Luc nous dit que Jésus, comme à son habitude, se rendit au jardin. Et Jésus avait l'habitude de choisir un endroit isolé pour prier, parfois toute la nuit. On ne revêt pas le caractère, les sentiments de Jésus-Christ du jour au lendemain, mais dans une vie de persévérance dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la mise en œuvre de la grâce que Dieu a opérée dans nos vies. Et je finis avec cette dernière pensée qu'il faut rester fixé sur notre appel. Jésus appelle Dieu son Père. Dans Marc 14, 36, il dit « Abba Père, Papa Père ». Et on trouve cette expression trois fois dans le Nouveau Testament. « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Paul dit en Galates « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous sommes d'une nouvelle nature. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, Romains 8, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». Et c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que si nous regardons bien, le cœur sincère d'un enfant qui dit « Papa » est dû au don de l'Esprit. Si vous pouvez appeler Dieu votre Père, c'est l'Esprit qui vous donne cette capacité-là. Si comme enfant je peux dire « mon père », c'est parce que lui, comme père, il m'a d'abord appelé « mon fils ». Et un commentateur disait « pleurer après un père absent est une démonstration d'amour aussi forte que de se réjouir de sa présence ». Quel loup allez-vous nourrir ? Qu'est-ce que vous allez donner à manger, à vos pensées, à vos corps ? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ton merveilleux exemple. D'être venu parmi les hommes, d'avoir marché sur cette terre avec nous. Dans ce corps. Même corps que nous, Seigneur. Pleinement homme. Avec des pensées, Seigneur, qui étaient comparables aux nôtres. Mais pur. Nous voulons, Seigneur, de ces sentiments qui t'habitaient, de ces pensées qui t'habitaient. Nous voulons de cette vie abondante que tu nous appelles à vivre en ta présence. Seigneur, aide-nous à persévérer, à pouvoir nous abandonner totalement à toi, à laisser nos mauvaises pensées, nos péchés, les mensonges, notre cupidité de côté, à la laisser partir, Seigneur, et mettre devant nous ta grâce, ton amour, pour que nous soyons remplis de paix, de joie, d'espérance, de bonté, Seigneur, de foi. Remplis encore nos âmes, nos corps de ton esprit. Plus encore, Seigneur, va gratter les recoins. Aide-nous à t'abandonner toutes choses dans nos vies. Et ce péché d'hier, Seigneur, qu'il ne soit plus présent demain. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, Agape dimanche, oui.